Pour cette troisième conférence sur le diaconat féminin, vous avez une feuille de route en 5 points et derrière vous avez un schéma. Vous avez un schéma qui est de mon cru, donc ce n'est pas un schéma officiel, hein, c'est moi qui aime toujours bien de faire des schémas. Vous voyez qu'il reprend à la fois le triangle, hein, les trois premiers termes là au-dessus, le triangle et aussi, le parcours plus linéaire, c'est la ligne ascendante qui va là d'en bas à gauche vers l'évêque. Et donc je rappelle que tout au début, dans l'église pré-constantinienne, ça veut dire avant 313, avant que la religion chrétienne ne soit religion licite et puis religion carrément de l'Empire, avant cette époque-là, l'église avait d'autres dimensions, elle était persécutée, etc. Et Ignace d'Antioche, par exemple, qui est d'ailleurs mort martyr, parle dans ses lettres de l'évêque, du prêtre, du diacre, et il a cette triade, pas toujours dans le même ordre, etc., mais ça correspond sans doute davantage au triangle qui est là au-dessus. Ensuite, quand l'église est devenue église officielle, si on veut, alors il y a eu ce cursus honorum, donc les candidats se sont multipliés, il a fallu les former, les sélectionner, ce qui fait qu'on a fait tout un parcours qui ressemblait un peu au parcours de l'Empire romain pour les administrateurs et pour les militaires. Et donc on est parti sur cette petite série que vous avez là, portier, lecteur, acolyte, exorciste, sous-diacre, diacre, prêtre, évêque. Alors vous voyez là qu'il y a 8 termes parce que il y a les ordres mineurs et les ordres majeurs. Mais où commence-t-on les ordres majeurs? Là aussi il y a des discussions. Hein. En tout cas, le sous-diaconat imposait déjà le célibat. Donc on peut dire qu'à partir de là, ça devient un engagement plus définitif. Sous-diacre, est-ce que c'est là que commence l'ordre majeur? Bon, certains disent oui, d'autres disent non. Le diacre, est-ce que c'est un ordre majeur? La plupart disent oui, évidemment, mais certains continuent à douter de la sacramentalité du diaconat, même masculin, en disant non, non, c'est une étape nécessaire, mais c'est la prêtrise qui est vraiment importante. Donc, si on bloque ensemble sous-diacre et diacre, bon, ça fait 7 avec prêtre et évêque comme séparés, mais on pouvait aussi concevoir que prêtre et évêque, c'était un même grade, si on veut, et que la différence était seulement une différence, je dirais, comme administrative. Il n'avait plus de responsabilité au niveau profane, mais au niveau sacré, il avait les mêmes pouvoirs. On parlait en termes de pouvoir, hein. Le pouvoir sur l'Eucharistie, un pouvoir sacré. Donc cette potestas définissait le sacerdoce, et là, à ce niveau-là, le prêtre et l'évêque sont sur le même pied. L'Eucharistie de l'évêque et du prêtre sont les mêmes, le pouvoir est le même, si on veut. Alors, l'évêque, la seule différence, eh bien, c'est que l'évêque a une responsabilité plus grande, mais cette responsabilité est une responsabilité juridique, potestas jurisdictionis, et pour saint Jérôme, ça ne fait pas de différence finalement entre le prêtre et l'évêque au niveau sacramentel. Et donc c'est la théologie de saint Jérôme qui a prévalu pratiquement jusqu'à Vatican II, hein, en disant que prêtre et évêque c'est un seul degré. Alors il y a un peu ces deux schémas donc qui se chevauchent.
Pardon, Benoît, moi j'ai pas compris. Ce que tu disais sur le petit triangle là au-dessus dans l'église avant
constantinienne, oui.
C'est quoi le petit triangle? Évêque, prêtre et diacre.
Voilà, évêque.
Il n'y avait que ça.
Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça.
Ah oui, d'accord.
Ok. Ce n'est qu'après qu'on a, avec l'église constantinienne, un peu complexifier l'affaire parce que ça commençait à s'organiser, hiérarchiser davantage. La théologie de saint Jérôme, donc c'est quoi? C'est que prêtre et évêque, c'est la même chose au niveau sacramentel, que la différence est juste une différence de juridiction. Alors, ce cursus honorum, donc vous avez là cette ligne qui commence avec les ministres institués sur votre petite feuille. Alors, je n'ai plus mis les 7 degrés, hein, mais donc c'est les 7 degrés qui se trouvent là, portier, etc. Voilà. On peut dire que, avec le XIIe siècle, je voulais bien l'expliquer la fois passée, il y a vraiment un grand tournant qui se fait, hein, parce que l'Église devient l'Église latine, séparée de l'Église d'Orient. Alors il y a toute une mentalité qui change, beaucoup plus rationaliste, beaucoup plus juridique. Et dans cette organisation, eh bien, il y a des choses qui disparaissent. Qu'est-ce qui disparaît? On en a parlé la fois passée. Eh bien, le diaconat masculin permanent, hein, disparaît. Ce n'est plus qu'une étape transitoire vers. Il y a le double clergé qui disparaît. Les prêtres mariés, eh bien, c'est terminé. Il n'y a plus que des prêtres célibataires. Et dans la tourmente, eh bien, les diaconesses, évidemment, aussi, hein, disparaissent. Il y avait encore des décrets de 4 papes au XIe siècle qui permettent expressément à des évêques d'ordonner des diaconesses. Mais au XIIe siècle, c'est terminé, les diaconesses ont complètement disparu. Alors, avec le décret de Gratien, on dit donc que les femmes ne peuvent pas être ordonnées ni prêtres, ni même diaconesses, d'accord? Et je dirais qu'on s'habitue tellement à cette suite, qu'avec le temps, je crois qu'à cette époque-là, l'histoire n'était pas faite de la même manière, hein, qu'avec le temps, on oublie qu'il y avait des diaconesses. On commence à dire que s'il y en avait, elles n'étaient certainement pas ordonnées, et puis même d'ailleurs, il n'y en avait pas. Hein. Donc, il y a une espèce de révisionnisme de l'histoire. Hein. Au Moyen-Âge et au XIIIe-XIVe siècle, bon, on ne faisait pas l'histoire comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, il y a un révisionnisme et même un négationnisme de l'histoire qui s'installe. Hein. Donc, vous pouvez lire des livres d'il y a 50 ans ou 100 ans sur ce sujet-là, rien sur le diaconat féminin, rien du tout. Parce que ça avait disparu, et même des livres, hein, pas seulement de l'histoire, mais des livres, ça avait disparu. Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut arriver, hein, dans une institution comme l'Église, on oublie des choses, et puis finalement, on dit qu'elles n'ont pas existé. Je crois que ça, c'est le travail de l'historien, de montrer ce qu'il y a eu. Bien. Alors, je passe à Vatican II. Vatican II, donc, comme vous savez, eh bien, a changé le schéma du cours Sanctorum et a établi le schéma que je vous ai mis sur votre feuille, d'accord? En indiquant bien que le prêtre et l'évêque sont 2 degrés différents du sacrement de l'ordre, et en précisant, donc, qu'il peut y avoir des diacres transitoires parce qu'ils vont devenir prêtres, mais aussi permanents, et qu'ils peuvent être soit célibataires, soit mariés. Si bien que vous arrivez à ce schéma un peu plus complexe que vous avez sur votre feuille. Il y a donc 2 types, et même 3, si on veut, hein, de diacres. Il y a le diacre transitoire, il y a le diacre permanent marié, et le diacre permanent célibataire. Et normalement, ces 3 états qui sont bien définis. Le transitoire, c'est juste pour aller au sacerdoce, et les 2 autres, ils sont fixés. Alors, cette histoire du diaconat a été déjà préparée par Pie XII, qui, dans le document, là, la Constitution apostolique, je crois, Sacramentum Ordinis, a expliqué ce qu'était le diaconat. Et il a dit le diaconat, eh bien, c'est vraiment 1 degré de l'ordre. Et les 2 rites importants pour distinguer le diaconat, c'est l'imposition des mains et la prière à l'Esprit-Saint, l'épiclèse, comme on dit. Ce sont les 2 rites importants, l'épiclèse et l'imposition des mains. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait d'autres rites aussi, d'autres rites. On donnait, par exemple, le calice, et puis on le portait sur l'autel. Ou bien vous donnez l'évangélière, vous l'ouvriez et vous lisiez l'évangile. Donc il y avait des rites, parce que le rituel, le cérémonial est très complet, si on veut. Mais dans certains cas, il y avait un rite en plus, là il y avait un rite en moins, là il y avait un rite un peu transformé. Ici on portait l'étole comme ceci, là on portait l'étole comme cela, là on avait les 2 genoux en terre, ici on avait un genou en terre. Bon, qu'est-ce qui est important? Pour les ritualistes, tout est important. Hein? Bon. Oui, mais alors quand on a 4 ou 5 rituels et que là il en manque un, là il en manque deux, là, ben, qu'est-ce qui est essentiel? Eh bien, on a dit que l'essentiel c'était l'imposition des mains et l'épiclèse. Et ça a aussi une répercussion écuménique parce que justement ce sont les rites qui sont communs à l'Église catholique et à l'Église orthodoxe. C'était aussi une manière d'exprimer que les ordinations orthodoxes étaient valides et que l'Église catholique reconnaissait les ordinations orthodoxes comme des sacrements à part entière, des sacrements valides. Très important au niveau écuménique, hein, parce que si on veut faire l'unité, il faut faire l'unité sur beaucoup de points, notamment sur l'Eucharistie et sur le baptême, bien sûr, là c'est le plus facile si on veut, mais aussi sur l'Eucharistie et donc sur les ministères. Si on n'est pas d'accord avec que le prêtre est un prêtre de deux côtés, alors l'Eucharistie ne peut pas être la même. Catholique et orthodoxe, c'est le plus facile. Catholique anglican, c'est un peu plus difficile. Catholique protestant, c'est très difficile. Au niveau de la reconnaissance des ministères et donc de l'Eucharistie. Donc, cette décision de Pie XII a une portée pour les catholiques, parce qu'on définit bien ce qu'est le diaconat, qu'il est vraiment un degré de l'ordre, mais aussi donc une portée écuménique, parce que ça fait la paix, je dirais, avec des polémiques qu'il y avait entre est-ce que les sacrements sont valides de part et d'autre. La vraie différence entre le prêtre et l'évêque, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'évêque a le sacerdoce en plénitude et il le partage avec le prêtre. Et de l'autre côté, il partage le ministère, la charge pastorale avec le diacre. Donc c'est à la fois une nouveauté et une reprise. Le diaconat permanent et le diaconat permanent marié entre autres. C'est à la fois une reprise et une nouveauté, parce que tel quel, il n'a jamais été aussi complet, oserais-je dire, qu'aujourd'hui. Au Concile Vatican II, il y avait aussi des évêques qui, dès le point de départ, avaient demandé qu'on parle du diaconat, et même du diaconat féminin. Donc déjà à Vatican II, les évêques avaient proposé de mettre à l'ordre du jour des questions sur le diaconat féminin. Comme il y en avait assez peu, eh bien donc on a parlé surtout du diaconat masculin, on a réussi, si on veut, à vraiment restaurer quelque chose de ce côté-là, mais la question du diaconat féminin est restée en arrière. Alors, comment est-ce qu'on a mis Vatican II en musique, après Vatican II? Eh bien, je cite là une série de dates, je vais les parcourir, elles n'ont pas tout à voir directement avec le diaconat, ni même le diaconat féminin, mais tous elles ont un peu une incidence sur la question des ministères. 67, 70, 72, 76 et 94, 2002, 2009. Alors j'explique ces dates. Eh bien, Sacrum Diaconatus Ordinem est le document qui établit vraiment ce que le Concile a dit au niveau des diacres permanents masculins. Désormais, on peut ordonner des diacres permanents masculin, soit célibataire, dans ce cas-là, il y a un âge qui est indiqué, soit marié, et dans ce cas-là, il y a aussi un âge qui est indiqué. Alors, je ne me souviens plus des âges, mais c'est 35 ans, je crois, pour le célibataire, et peut-être plus pour le marié ou l'inverse, je ne me souviens pas, mais c'est de cet ordre-là. Les diacres permanents ne sont pas ordonnés à 22 ans ou 23 ans, comme les transitoires. Il y a donc une exigence là au niveau de l'insertion dans la vie habituelle, si on veut, qui est plus grande. Alors, important à savoir, notamment pour l'éventuelle diaconesse, c'est une proposition qui est faite aux évêques, c'est une permission qui est une possibilité qui est ouverte. Si vous êtes évêque, vous n'êtes pas obligé d'avoir des diacres permanents dans votre diocèse. On pensait que ça allait intéresser beaucoup des pays comme l'Afrique, par exemple. Eh bien, c'est tout l'inverse. En Afrique, il y en a très peu. On m'a dit qu'il y en avait quelques-uns au Bénin ou quelque chose comme ça, mais ça se compte en peut-être une dizaine sur toute l'Afrique, pas plus. C'est vraiment très peu. Ce n'est pas entré dans la sensibilité des évêques africains de prendre cette piste-là. Par contre, des 45 000 diacres permanents qui existent dans le monde, il y en a 18 000 aux États-Unis. Donc voilà, hein, aux États-Unis, il y en a beaucoup, en Allemagne également, en Belgique, pas mal aussi. Ça veut dire que depuis que ce temple ça a été proposé, depuis ces 50 ans, ben, il y en a 45 000 hein, qui se sont proposés et qui ont été admis, ordonnés, et qui travaillent, etc. Voilà. Si jamais il y a quelque chose qui est rétabli pour les femmes diacres, c'est la même chose. Les évêques ne sont pas obligés hein, d'introduire cela dans leur diocèse. Si les évêques disent non, 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 moi je n'en veux pas, etc., eh bien on reprend la situation finalement des évêques de Gaulle, qui, comme je vous l'ai dit la première leçon, hein, dans plusieurs conciles locaux, ont dit nous ne voulons pas qu'on leur donne des femmes qu'on appelle diacres, etc., parce que voilà, ça fait des ordres dans notre diocèse, on n'aime pas ça. Ils ont les raisons qu'ils veulent, on n'est jamais obligé. Hein. Ce qui est proposé par l'Église, eh bien, est mis en œuvre vraiment par les évêques locaux, selon les besoins ou selon les mentalités qu'ils ont. En 1970, on a rétabli l'ordre des vierges consacrées. Alors ça aussi, c'est une grande nouveauté. L'ordre des vierges consacrées n'existait plus depuis très 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 longtemps. Il y avait, je vous l'ai dit tout au début, au fond trois ordres féminins, hein, celui des vierges consacrées, celui des veuves et celui des diaconesses. Et parfois, une veuve était aussi diaconesse ou une vierge était aussi diaconesse, etc. Ça, c'était possible. Hein. Bien sûr. Mais donc ça a été rétabli. Et actuellement, il y en a 2000 dans le monde. Ce n'est pas énorme, hein, mais il y en a. 2000 dans le monde. Et elles sont en lien direct avec leur évêque. Ensuite, il y a eu Ministeria Quaedam. Alors ça, c'est un document assez curieux et important et qui prête à commentaire. Par ce document, on dit que tous les degrés des ordres mineurs sont supprimés, ou plutôt sont conservés et transformés en ministères institués, mais on n'en conserve que deux. Le lectorat et l'acolita. C'est ce que vous avez donc en bas à gauche, hein, les ministères institués. On est institué, donc ça c'est pas ordonné, hein, on est institué, lecteur et acolyte. Et ça remplace tous les ordres mineurs, mais ça remplace pas bien sûr le diaconat, le sacerdoce et l'évêque. Hein. Donc ce document, si on veut, eh bien, continue à mettre en œuvre Vatican II en disant il n'y a plus que ceci, hein, lectorat et acolita comme ministère qui ressemblait aux ordres mineurs. Alors ce qui est important, c'est que dans ce document on dit que ces deux ministères sont ouverts à toute personne, hein, qui en est digne, qui veut le faire, qui veut rendre ce service, etc. On ne fait pas de distinction, on ne précise pas si ce sont des hommes ou des femmes. Et on ne précise pas non plus s'il se destine ensuite au sacerdoce ou non. Donc c'est un document assez ouvert. Hein. Il est assez ancien, 72, mais donc on propose avec le lectorat et l'acolita, on propose quelque chose, et en fait, je crois qu'on espérait aussi que d'autres ministères institués seraient peut-être mis en route, et on espérait peut-être que des laïcs hein, prendraient ce ministère, que des femmes prendraient ce ministère, mais concrètement, et là, c'est ça qui est un peu, disons, triste, c'est que concrètement, il n'y a que des hommes et que des séminaristes. Et donc finalement, on revient un peu aux ordres mineurs. Quoi. Ce n'est pas un sacrement, d'accord, mais il n'y a que des hommes et que des séminaristes. Et avant d'être ordonné diacre transitoire ici, hein, eh bien, il faut avoir été institué lecteur et acolyte. Et donc, ça se fait finalement dans les séminaires. Alors là aussi, je dirais, on a un peu raté le coche, hein, en disant, d'abord, on aurait pu, ces deux ministères, du lectorat et de l'acolyta, l'ouvrir, par exemple, à des femmes, et l'ouvrir à des hommes qui ne se destinaient pas du tout à la prêtrise. Oui.
C'est une volonté ou bien c'est simplement la pratique qui a...
C'est une non-volonté. Hein. C'est une non-volonté, c'est donc l'inertie. Okay. On dit, celui-là, comme il va devenir prêtre, celui-là, on est sûr que ça marchera. Hein, bon, et l'autre, attendons un peu, et puis on attend, et puis on attend, et puis voilà. Hein. Je crois que c'est une négligence, peut-être des gens qui veulent freiner, d'accord, mais c'est aussi un manque de créativité, à mon avis. Moi, j'aurais souhaité, personnellement, que ces ministères soient plus largement ouverts, et puis qu'on en institue d'autres. Et je crois que c'était un petit peu l'idée de Vatican II. Mais voilà, nous en sommes là. C'est que ça devient finalement, à strictement parler, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour aller au diaconat? Dans la pratique, oui. Théologiquement et tout, je ne suis pas sûr. Enfin voilà, c'est comme ça.
Oui. Est-ce qu'il y a un an ou deux, il n'y a pas eu toute une polémique autour du fait que les femmes ne pouvaient pas être lecteurs? On n'a pas eu ça il y a bien.
Alors, elle ressurgit souvent.
Mais donc elles peuvent, puisque le texte est là.
Alors, oui, mais là, c'est la question de l'institution. Hein. Alors ça, c'est aussi une question. Donc, madame, vous voulez bien lire, d'accord, mais vous n'êtes pas instituée lectrice pour autant. Hein. Alors, vous lisez, mais enfin, vous ne pouvez pas, mais vous allez quand même le faire. Et même le pape, finalement, a des acolytes qui sont des filles autour de lui, alors qu'il y a des textes qui disent que ce n'est pas possible. Il y a quand même une messe avec toute une série de filles qui savent la messe. Donc, c'est un peu la distorsion entre les textes et la réalité. Ça, c'est vrai. Mais donc, beaucoup de femmes savent la messe, beaucoup de femmes lisent, évidemment, énormément. Elles lisent d'ailleurs souvent d'une manière plus audible que les hommes qui ont des voix trop graves, hein, mais les voix plus aiguës d'habitude sont plus audibles, enfin peu importe. Mais en fait, il n'y a pas une reconnaissance de ce. Alors, cette polémique, elle va ressurgir tant qu'on n'a pas dit que c'était possible pour tous. Hein. De loin en loin, il y a quelqu'un qui revient avec cette question. C'est pas une question nouvelle, je ne crois pas. Oui?
Quel est le contenu du ministère Quaedam? Parce que vous dites qu'il est ouvert, mais c'est...
Ministeria Quaedam, ce sont les premiers mots du texte qui veulent dire certains ministères, de l'ancien cursus honorum vont être institués, etc. Et voilà, il n'y a que ces deux-là. Alors, Inter Insigniores, c'est un document de la CDF, ça veut dire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dont le cardinal préfet était le cardinal Müller, actuellement le cardinal Ladaria, un jésuite. Donc c'est un dicastère, une congrégation importante, a produit un texte, Inter Insigniores, sur la question, pour répondre à la question des évêques allemands et américains, peut-on ordonner des femmes diacres? Et vous vous souvenez du contenu de la réponse, on ne peut pas ordonner des femmes prêtres. Donc la question était sur les diacres et la réponse est sur les prêtres. Les deux documents disent la même chose, Inter Insigniores de 76 et Ordinatio Sacerdotalis de 94. Mais l'un est de la CDF et l'autre est de Jean-Paul II. Donc on monte l'autorité. Hein? La lettre apostolique de Jean-Paul II a une autorité plus grande que le document de la CDF. Donc c'est souvent comme ça qu'on fait sur des choses un peu difficiles. Bon, on envoie d'abord un peu des théologiens proposer un texte, et puis comme ils n'ont pas une très grande importance, on peut les critiquer. Hein. Mais quand ça passe, une question de réception, comme on dit, quand ça passe, alors le texte acquiert de l'autorité. Et Jean-Paul II donc, a fait un document en 94. Mais au fond, alors ça c'est intéressant, hein, au fond, c'est une réponse à la même question, et c'est la même réponse, pas de femme prêtre, mais il y a toute une série d'arguments. Alors ces arguments, eh bien, quand on examine bien ces deux textes, c'est intéressant de voir que ces arguments sont très nombreux dans le premier texte, et dans le deuxième texte, ils sont beaucoup moins nombreux. On n'a retenu que les plus forts, parce que les nombreux arguments du premier texte étaient assez critiquables. Alors on a dit, on va laisser tomber les arguments qui ne sont pas assez costauds, et on va ressouligner ceux qui sont les plus forts. Alors quels étaient ces arguments? Trois types d'arguments. scripturaire, traditionnel et, disons, anthropologique, symbolique, spirituel. Voilà. Alors, les arguments scripturaires, il y en a deux. L'argument traditionnel, il est unique, et l'argument anthropologique, bon, il est le même, c'est la symbolique homme-femme qui ne supporterait pas, donc, l'ordination sacerdotale. Alors, on voit bien que, comme je vous ai dit, hein, ces quatre arguments, les deux scripturaires, le traditionnel et l'anthropologique, sont nombreux dans le premier texte, hein, sont nombreux dans le premier texte, ils sont moins nombreux dans le second. Parce que, entre autres, la commission biblique avait dit que les arguments scripturaires qu'on avançait là n'étaient quand même pas très solides et qu'on utilisait un peu les choses. Bon, je vais vous expliquer. Le premier argument scripturaire est celui-ci. Il se présente au fond, on peut le formaliser un peu sous la forme d'un syllogisme. Les 12 choisis par Jésus comme apôtres sont des hommes. Les 12 sont des hommes. Or, Jésus était libre et n'a pas agi par préjugés culturels. Jésus était libre et n'a pas agi uniquement par rapport à l'époque de son temps. Il était au-dessus de l'époque de son temps. Donc, le choix de Jésus équivaut à une exclusion explicite des femmes. Voilà. Alors, bon, j'ai formalisé le syllogisme, mais c'est ce syllogisme-là, hein, c'est le fond de l'argument. Alors, la première prémisse, Jésus a choisi 12 hommes, bon, irréfutable, hein, ça on est d'accord, hein. Bon, ça c'est bien. Alors, est-ce qu'il n'a pas choisi d'autres personnes à côté? On n'en sait rien, mais en tout cas, on est sûr qu'il a choisi 12 hommes, ça c'est vrai. Jésus est libre et donc est au-dessus des préjugés culturels. Ben, oui, Jésus est libre, d'accord, est au-dessus des préjugés culturels. Oui, oui et non. Oui et non. Hein. C'est quand même difficile. Il y a un certain conditionnement qu'il a voulu assumer, d'ailleurs. C'est ça son incarnation. Hein. Ce n'est pas du monophysisme. Jésus n'est pas descendu comme ça, le Verbe. Il s'est quand même fait chair, quelque part. Hein. Et cette chair, ben, elle était juive. Elle était dans le contexte culturel de l'époque. Alors qu'il ait aussi quand même un peu secoué le cadre culturel dans lequel il était, ça c'est évident aussi, hein, c'est évident. Mais dire qu'il est totalement au-dessus, bon, je crois que c'est un petit peu exagéré, et donc que ça équivaut à une exclusion explicite, bon, ça c'est évidemment une conclusion très, très directe, hein, et je crois que ce syllogisme ne tient pas pour plusieurs raisons. Jésus était libre, d'accord, il n'a pas agi par préjugé, ça c'est à voir. Donc le choix de Jésus équivaut à une exclusion, ça c'est un argument qu'on ne peut pas défendre, ce n'est pas explicite. Hein. Donc il équivaut un peu à l'argument du silence. Jésus a choisi 12 hommes, ben, il n'a rien dit sur les femmes, bon, en tout cas on n'en sait rien, donc on ne peut pas conclure de ce qu'il n'a rien dit qu'il voulait dire non. Voilà, je crois que tiré d'un argument du silence, hein, quelque chose de positif, c'est évidemment un peu osé. D'ailleurs, il est clair, hein, que la commission biblique qui conseillait la CDF avait dit qu'il ne fallait pas utiliser ces arguments. Quand on examine les textes, hein, il y a 17 voix contre 0 qui disent que le Nouveau Testament seul et par lui-même ne permet pas de trancher clairement cette question. Il y a quand même 17 exégètes, hein, considérés comme des spécialistes, qui tous ont dit, là c'est l'unanimité, hein, qu'il n'est pas permis, avec le Nouveau Testament seul, donc il y a la tradition, d'accord, mais seul, de trancher cette question. Par contre, pour se demander si, en ordonnant des femmes, on va contre les intentions de Jésus, contre les intentions originelles de Jésus, là il y en a 12 contre 5 qui se demandent si on irait vraiment contre ses intentions en ordonnant des femmes, 12 contre 5 quand même, et 5 qui disent non, on irait contre ses intentions. Donc il y a quand même une majorité, hein, qui est encore prêt à se poser la question, est-ce que l'intention originelle de Jésus, nous la connaissons suffisamment pour trancher nous-mêmes? Le second argument scripturaire est le suivant. il est plus simple, les apôtres ont agi comme Jésus. Jésus a fait ça, bon, donc ça, c'est, ça devient une prémisse. Hein. Donc les apôtres, fidèles à Jésus, ont agi comme lui. Et donc tout ce qu'ils ont fait était fidèle à cette exclusion. Alors là aussi, ce second argument, la commission n'était pas, biblique n'était pas d'accord. Les apôtres ont agi comme Jésus. Oui, mais les apôtres ne sont pas au XIIe siècle. Ils ne sont pas au IVe siècle. Quand on étudie l'écriture, Saint Paul, etc., les pastorales et tout, on se rend compte que c'est très difficile de savoir ce que les apôtres ont fait. C'est très difficile de dire qu'est-ce que c'est une ordination à partir de Saint Paul. Très difficile. C'est anachronique de projeter sur Saint Paul une perspective totalement claire sur la question des ordinations uniquement masculines, etc. On sait par exemple qu'il y a les sept hommes qui ont été désignés pour le service des tables, mais il y a eu une imposition des mains, il y a eu un choix, etc. Mais est-ce que les disciples avaient à ce moment-là l'intention de créer toute une organisation comme celle-ci? L'histoire commençait. Je crois qu'il faut respecter donc la perspective historique. Cet argument, selon la commission biblique, manque totalement de perspective historique. Alors la tradition, il est également très simple, l'argument tradition, il n'y a jamais eu d'ordination de femmes prêtres. Ça c'est évident, bon, c'est irréfutable. Cette ordination n'a existé que dans quelques sectes hétérodoxes condamnées par l'Église. Bon, cet argument est le plus clair, il ne manque pas de force dans une certaine évidence, mais certains pourraient se poser la question quand même. Une unanimité aussi massive de l'histoire éveille aussi un soupçon tenace. Il pourrait s'agir tout simplement de l'aveuglement propre aux évidences culturelles d'une époque. Si tout le monde est d'accord pour penser quelque chose, ben c'est probablement qu'on ne pense pas. C'est que c'est évident. Dès qu'il y a des avis différents, c'est que ça se problématise un peu et on commence à penser la chose. Si tout le monde est d'accord sur un truc culturellement, ben on dit ben c'est l'inconscient collectif, quoi. C'est le cadre, c'est la culture. Il y a des pays comme ça où il y a des choses qui sont évidentes, dans notre pays aussi, mais dans d'autres. Alors quand on est dans un autre pays, on dit mais enfin, comment est-ce qu'ils peuvent penser cela? Ils pensent tout cela. Mais c'est une évidence culturelle. Voilà. Je crois que donc l'argument de la tradition, il faut aussi l'interpréter. Et certains disent que, eh bien donc, il y a sans doute un biais culturel. On peut prendre l'exemple de l'esclavage, par exemple. Est-ce que l'Évangile abolit l'esclavage? Jésus, pas en tout cas. Puisqu'il parle même dans la parabole d'un centurion qui a un esclave, etc. C'est, à cette occasion-là, il ne fait aucune remarque sur l'esclavage. Est-ce que saint Paul abolit l'esclavage? Oui et non. Oui et non. Il dit qu'il n'y a plus ni maître ni esclave. Mais avec Onésime, par exemple, il parle d'un esclave, de son patron, etc. Entendez-vous bien, vous êtes chrétien. Voilà, vous le servez dans la liberté, vous lui commandez dans la liberté. Mais il ne dit pas qu'ils doivent cesser d'être dans cette relation. Mais c'est dans la logique même de l'Évangile, progressivement, en tirant les conclusions de saint Paul, etc., d'en arriver à l'idée que l'esclavage n'est pas une intuition chrétienne, que la liberté nous empêche de continuer dans cette ligne-là. Et je crois que c'est le christianisme qui a aidé à supprimer ce genre de choses. Supprimer des choses qui étaient encore existantes il n'y a pas si longtemps que ça. Au Brésil, en Russie, au 18e, 19e siècle, ça existait encore. Et aujourd'hui, on peut dire que ça existe encore sous une autre forme, bien sûr. Mais voilà, il faut du temps pour qu'une idée pénètre vraiment une culture, une civilisation. Et je crois que l'Évangile aussi met du temps à pénétrer les mentalités. Certains disent même que c'est blessant pour l'Église et pour l'Esprit-Saint qui œuvre en elle que de dire que, puisque la tradition est unanime, donc on doit continuer comme ça. C'est l'Esprit-Saint qui guide la tradition. La tradition, elle a créé des choses. Elle a créé tout ceci. Pourquoi est-ce que maintenant, elle ne peut pas continuer à créer, dans la même ligne peut-être, mais en la modifiant quand même, d'autres choses. Les troisièmes arguments, troisième série, c'est les arguments anthropologiques ou symboliques ou spirituels qui disent, voilà, que Jésus fut un homme, et que la symbolique homme-femme ne permet pas hein, que une femme représente le Christ qui était un homme. Alors ça, c'est ce que j'ai mis en dessous de votre ligne là. Une femme peut-elle représenter le Christ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'une femme peut dire, comme un homme le dit, « Ceci est mon corps ». Alors, quand c'est un homme, il dit « Ceci est mon corps ». Bon, ben, comme c'est un homme, ben, Jésus est un homme, donc ça ne choque pas trop. Hein, mais si une femme dit « Ceci est mon corps » et que c'est le corps de Jésus qui est un homme, alors est-ce que ça va coller, etc. Est-ce que c'est bon? D'ailleurs, Marie ne fut pas prêtre. Hein? Marie ne fut pas prêtre.
Mais Jésus non plus.
Mais Jésus non plus, voilà, c'est le genre d'argument qu'on peut continuer à avancer. Hein? Jésus n'était pas prêtre, il n'appartenait pas aux Lévites, hein, à la tribu de Lévi. Et c'est ce genre de changement-là qui sont importants.
Il dit, je suis, ceci est mon corps. Donc c'est il dit, on parle de lui, c'est pas la femme qui le dit, c'est il. Il parle de Jésus qui dit, il, je suis mon corps. Donc, je veux dire, c'est lui qui prononce, c'est pas la femme qui prononce.
C'est pas le prêtre non plus d'ailleurs.
Hein. Ah oui,
c'est ça que je voulais dire.
C'est
voilà.
Ce que je veux dire.
Et ça, c'est le genre d'argumentation qui doit pénétrer dans les esprits, à mon avis. Mais parfois, ça met un peu de temps. Parce qu'il y a une espèce d'évidence, hein, d'évidence culturelle de nouveau et rituelle, hein, où on dit ben, c'est normal puisque le prêtre c'est un autre Christ, etc. Il le dit, etc. Mais voilà, je crois que là.
Ça, c'est aussi une construction.
Eh bien, oui. Je suis d'accord. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est l'idée de. On a trop, depuis longtemps, pensé que, voilà, puisque l'homme dit cela, eh bien, il est un autre Christ, etc. Mais. Jésus, enfin l'épître aux Hébreux dit aussi que le seul prêtre c'est Jésus, le seul. Et il y a une distance symbolique entre les paroles que dit le prêtre et la réalité qui se réalise, hein. Une distance symbolique qui est très grande et qui peut être ni plus grande ni moins grande si c'était une femme qui le disait. Parce que la question ce n'est pas que ce soit un homme qui le dise, c'est que c'est un homme qui a été ordonné, qui a reçu ce sacrement et qui par là, eh bien, est investi d'une mission, d'un pouvoir, comme on disait, d'une potestas, mais ce n'est pas parce qu'il est un homme qu'il a cette potestas, c'est parce que l'Église a décidé hein, de le choisir pour faire ce geste que Jésus a fait. Donc voilà, là il y a des arguments très importants, hein. Est-ce qu'une femme peut représenter le Christ? Ben, si on dit non, on est un peu mal parti, parce que, bon, il n'y a que les hommes qui peuvent agir hein, comme le Christ. Bien sûr, in persona Christi capitis, bon, ça c'est vraiment ce qui est sacramentel, mais pourquoi est-ce qu'une femme serait exclue automatiquement de cela? Je crois que là, il y a sans doute encore beaucoup de préjugés à dépasser et beaucoup de réflexions sur la symbolique hein, et sur la sacramentalité des paroles. Parce que, comme vous dites très bien, ces paroles, c'est pas moi qui les dis, hein, c'est le Christ, et moi je suis là pour dire les paroles que le Christ a dites. Ben, si une femme lit l'Évangile, elle dit les paroles du Christ, comme moi, quand je lis l'Évangile. Voilà. Monseigneur Delay, qui est un Belge, qui a été longtemps le secrétaire de la CTI, a cet argument-ci, qui me semble intéressant, hein, c'est que c'est symbolique, mais c'est aussi gravé dans l'histoire. Hein? C'est symbolique, mais c'est gravé dans l'histoire. Donc, c'est à la fois un symbole qu'on peut remettre en question, d'accord, qui n'est pas absolu en soi. Aucun symbole n'est absolu en soi. Il faut toujours des paroles pour interpréter, pour orienter l'interprétation du symbole. Mais c'est gravé comme ça dans l'histoire. Alors, on prend la comparaison avec le pain et le vin. Est-ce qu'on peut faire l'Eucharistie avec autre chose que du pain et du vin? Ben, dans l'absolu, absolu, absolu, on pourrait très bien prendre autre chose. On prend du riz et de l'eau, hein, pourquoi pas? Mais il se fait que, historiquement, Jésus a, je dirais, créé ce symbole à partir de ce qu'il a dit sur le pain et le vin, et c'est pour respecter cette historicité, cette institution hein, symbolique, que l'on garde du pain et du vin et pas autre chose. Eh bien, Monseigneur Delay dit, bon, ça se pourrait qu'il y ait là aussi hein, quelque chose qui met ensemble l'histoire et le symbole, et que le symbole a été, disons, orienté par l'histoire, elle ne peut pas bouger hein, n'importe comment. Je crois que c'est un argument valable, mais il n'est peut-être pas absolu non plus, hein. Mais ça fait quand même qu'il faut réfléchir à ce qu'est un symbole et à ce qu'est une personne humaine, l'homme ou la femme, hein, qui fait un geste symbolique ou un geste sacramentel. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, Jean-Paul II a publié une lettre apostolique qui s'appelle Ordinatio Sacerdotalis en 94 et qui redit la même chose avec, en laissant tomber un peu tous les arguments un peu difficultueux qu'on a relevés ici d'ailleurs. Hein, voilà. Mais on le dit, et alors on ajoute même que cette doctrine est définitive. Alors on s'est demandé, ça veut dire quoi définitive ? Ça veut dire définitive, hein. Donc c'est infaillible. Non, c'est pas infaillible, mais ce l'est quand même plus ou moins, surtout pour ça, quoi, hein. C'est en fait une catégorie qui a été inventée, hein. Qui a été inventée pour la cause. Il y avait la doctrine réformable, ça veut dire qu'elle ne vaut pas, hein, mais éventuellement réformable ou qui peut bouger, et puis une doctrine irréformable, infaillible. Eh bien, on a inventé une catégorie entre les deux.
Bon, donc, on fait preuve de créativité.
De temps en temps, on fait preuve de créativité pour bloquer les choses.
Mais quelle est cette catégorie entre les deux ?
Définitif. C'est une doctrine définitive. Je ne vais pas entrer dans cette question, mais beaucoup de théologiens se sont demandé, tiens, c'est la première fois qu'on utilise cette catégorie en théologie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement,
hein ? Et canoniquement, une lettre pape,
oui,
peut avoir ce genre d'effet.
Pour être infaillible, il y a des conditions très précises.
Oui,
il faut la constitution apostolique. Ici, ce n'est pas suffisant, je crois. Ce n'est pas le cas. Il faut beaucoup d'autres choses, mais on ne va pas entrer dans les détails. Hein.
Oui, d'accord.
Mais
vous avez répondu à ma question.
On voit bien qu'on a essayé de forcer un peu l'interprétation dans un sens de l'infaillibilité, alors que formellement, il n'y avait pas les éléments pour le
faire. C'est pas souvent un argument de faiblesse. On dit que c'est définitif, de façon à ce qu'on ne doit plus en discuter.
Je suis d'accord avec vous.
Quoi? Mais c'est
intéressant. Oui.
Enfin, je veux dire, c'est souvent comme ça. Point barre. Pourquoi point barre? Parce qu'il n'y a plus d'argument.
Voilà.
Mais est-ce que
oui.
Le fait qu'il ait affirmé que ce soit définitif, ça a été remis en question. La légitimité même de son texte a été remis en question par différents théologiens.
Oui.
Je pense que Jean-François Chiron, par exemple, il a écrit beaucoup là-dessus.
Oui, qui est un spécialiste de la papauté et de l'infaillibilité pontificale. Donc voilà, mais vous voyez que les théologiens ont encore des sujets pour discuter, n'est-ce pas? Alors, la CTI, la Commission théologique internationale, dont j'ai l'honneur de faire partie et que je vais rejoindre demain. Voilà, la CTI a publié en 2002 un document sur le diaconat. Alors d'habitude, une dizaine de théologiens est chargée de faire un document et il a 5 ans pour le faire. Alors vous allez me dire, 5 ans c'est beaucoup, c'est très peu, hein, c'est très peu parce qu'on vient d'horizons divers, on a autre chose à faire bien sûr, donc on se voit 2 fois par an, et il y a les mails aujourd'hui mais autrefois pas, et bien on s'y est repris à 2 fois, il y a eu 2 quinquennats qui ont planché sur le diaconat, parce que la première fois, et bien le document de 17 pages qui avait été proposé par la commission, Ratzinger n'a pas voulu le signer, il était assez favorable, hein, au diaconat féminin. Ratzinger n'a pas voulu le signer et il a nommé une nouvelle commission qui a produit un document moins favorable, mais pas tout à fait défavorable, qui dit ceci, à la lumière de tous ces éléments, là maintenant on est passé de 17 à 80 pages pour cette conclusion-ci, à la lumière de tous ces éléments, mis en relief par la présente recherche historico-théologique, il revient au ministère de discernement que le Seigneur a établi dans son Église de se prononcer avec autorité sur la question. Donc ça veut dire, nous, théologiens, on ne sait pas. Il revient au pape. C'est ça que ça veut dire, hein. Il revient au pape, au ministère de discernement que le Seigneur a établi en son Église, de se prononcer avec autorité sur la question. En 2002. Et il a fallu 2 quinquennats pour arriver à cette conclusion.
C'est courage.
Alors, la CTI, la CTI n'a donc pas dit non. Mais elle n'a pas dit oui non plus. Voilà. Alors... Bon, je crois que c'est nécessaire aussi de prendre tout ce temps et de réfléchir. Les mentalités changent entre temps. On m'a dit que je prêche la patience et qu'on n'est pas assez patient et tout ça. Enfin, que patience, patience, oui. Voilà, moi je vous dis ce qui est. Hein. Je crois que quand même les mentalités changent, puisque au synode de l'Amazonie qui a eu lieu là, en octobre passé, il y a eu un vote sur le diaconat féminin. Le vote n'est pas passé, mais beaucoup d'évêques, et la Dalia en particulier, ont été étonnés du nombre de voix positives qu'il y avait. C'était beaucoup plus que prévu. Il paraît même qu'il y en a qui ne sont pas très contents, disons, de ce vote qui progresse, hein, lentement bien sûr, mais qui progresse dans ce sens-là. Alors il y a encore un autre document important, en 2009, Omnium in Mentem, c'est Benoît XVI qui change quelque chose dans le droit canon. Alors vous allez me dire, le droit canon, mais on ne change pas le droit canon. Eh bien, oui, ça justement, hein, les séminaristes parfois disaient, ah mais c'est dans le droit canon, donc c'est comme ça. Mais le droit canon, on l'a fabriqué et on peut le changer. Hein. Donc on l'adapte. Il y avait celui 1917, celui 83 a déjà beaucoup changé. Et de temps en temps, eh bien, on change un canon ou l'autre. Et ce fameux canon 1009, qui parle justement des prêtres, des évêques, des prêtres et des diacres, a été modifié dans le sens de dire que, eh bien, l'évêque et le prêtre agissent dans la personne, en la personne du Christ chef, tandis que justement, hein, in persona Christi capitis ecclesiae, hein, en tant que chef de l'Église, en tant que tête de l'Église, tandis que les diacres, en revanche, sont habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole, de la charité. Donc, eux, ils sont, c'est pas mis dans le texte, mais c'est ça que ça veut dire, ils agissent aussi en la personne du Christ, mais pas chef. On fait le contraste. Donc, en fait, on marque cette différence si il y a une solidarité prêtre-évêque, mais il y a une différence par rapport au diacre. Je crois que ceci est important parce que si on essaye de mettre le diacre ici, dans cette continuité ici, hein, en disant, bon, il n'est pas encore prêtre, mais il le devient, d'ailleurs tous les diacres sont déjà plus ou moins des prêtres en puissance, etc. Eh bien, donc, on fait du sacrement de l'ordre un sacrement uniquement sacerdotal. Tandis qu'ici, on diversifie, hein, le sacrement, il est sacerdotal et il est aussi de la diaconie, hein, du ministère. Et ceci, à mon avis, ouvre la porte à la possibilité de dire, bon ben, s'il y a des diacres permanents, masculins ou des femmes diacres, qui agissent in persona Christi, servis comme serviteurs du Christ et non pas comme chef de l'Église, eh bien, on peut donc mieux distinguer les deux et mieux continuer dans la même ligne, je crois, que lorsqu'on a restauré les diacres permanents. Je crois que Benoît XVI l'a fait par pure honnêteté intellectuelle, parce que justement, le texte précédent était un bon argument pour refuser, hein, le diaconat aux femmes, en disant que ben, dès qu'on est diacre, on est déjà prêtre en puissance, quoi. Or, comme on peut pas, les femmes ne peuvent pas être prêtres, ça on l'a déjà dit, donc, prêtre en puissance, ça ne va déjà pas. Si on dit que le diacre n'est pas un prêtre en puissance, mais qu'il est autre chose au service de l'évêque, je crois qu'on ouvre une porte. Hein. Et je pense qu'il l'a fait par honnêteté intellectuelle, parce que lui, à mon avis, il est contre. Hein. Mais il a bien vu que cet argument, intellectuellement, est un faux argument dans la tête de ceux qui l'utilisent, et que comme ça, on ne peut plus l'utiliser, et on doit raisonner de manière plus juste, quoi. Pas raisonner avec des arguments un peu fallacieux, me semble-t-il.
Bernard, pardon, est-ce que face à un document définitif d'un pape, oui, il pourrait y avoir un autre document définitif d'un autre pape?
Bien sûr, oui. Bien sûr. Ça, c'est le truc. Oui, c'est, à mon avis, c'est exactement ce que fait le pape François en parlant de cette commission pour le diaconat. Mais le jour où ça avancera, oui, il faudra bien réexpliquer ce que veut dire définitif, etc.
Bien son tort, le pape a créé une commission pour le diaconat féminin, il n'a jamais dit qu'il allait ordonner des femmes prêtres.
Ah ben oui, c'est ça. C'est ça.
Donc c'est bien définitif. Jusqu'à nouvel ordre.
Oui. Oui, oui. En tout cas, il y a des théologiens comme Congar, par exemple, et d'autres, je n'ai plus en tête là les noms, qui disent que ils ne voient pas les arguments définitifs qui empêcheraient d'envisager cette question. Mais... Ce sont des théologiens, évidemment, ce n'est pas le magistère. Hein. Il y a une différence entre le magistère et les théologiens. Hein. Normalement, il doit y avoir une collaboration. Mais c'est normal que les uns sont plus dans l'establishment et les autres plus dans le progrès, hein, dans la réflexion. Alors, je passe maintenant à l'aspect œcuménique. Il me reste quelques minutes, mais je crois que cet aspect œcuménique est important. Il faut aussi que l'Église catholique sache ce qu'elle fait lorsqu'elle s'engage dans ces différentes choses, parce qu'il y a les enjeux œcuméniques. Il ne faut pas que ça creuse le fossé entre l'Église catholique et les orthodoxes, les anglicans, les protestants. Bon, ça peut jeter des ponts, mais ça peut creuser aussi le fossé. Hein. Alors, par rapport aux orientaux, ben, nous savons que dans l'Église orthodoxe, il y a un double clergé, hein, qui n'a pas été supprimé au XIIe siècle. Est-ce qu'on trouve des diaconesses ? Dans certaines églises, parce que là, vous savez qu'il y a un grand nombre d'églises, hein, orthodoxes, slaves, grecs, etc., coptes, tout ce qu'on veut, il y a des traditions quasi ininterrompues, par exemple dans l'église copte, de diaconesse. Mais est-ce que c'est un ordre sacramentel ? Ça, ça ne semble pas clair du tout. Oui.
Je pense que votre texte est un peu prêt à confusion parce que vous mettez orthodoxie, 23 églises orientales rattachées à Rome,
oui.
Et puis vous mettez diaconesse de l'église copte du patriarcat d'Alexandrie. Mais vous visez les coptes orthodoxes ou les coptes catholiques ?
Eh bien, il y a une grande variété. Hein.
Oui, ben donc, après, il y a quand même deux patriarcats.
Oui, au moins, oui.
Il y en a au moins deux.
Oui, oui, bien sûr. Mais donc, je distingue ici les 23 églises orientales rattachées à Rome, qui sont des églises qu'on pourrait dire autrefois orthodoxes, et puis qui sont rattachées. Hein. Et eux, ils sont catholiques, mais ils sont de rite copte, de rite orthodoxe, etc. Chez ceux-là, il n'y a aucune ordination féminine.
Voilà, c'est
ça, c'est clair. Hein. Chez ceux qui sont rattachés à Rome, il n'y a aucune ordination féminine.
Les prêtres sont mariés. Hein.
Mais les prêtres sont mariés. Oui, ça dépend des églises. Et souvent, il y a un double clergé. Hein. Un double clergé. Ils ne sont pas tous mariés.
Pas tous.
Mais, oui, beaucoup. Et alors, les autres, je parle de l'église copte et du patriarcat d'Alexandrie, là, ce sont des orthodoxes qui ne sont pas rattachés à Rome. Hein. Qui ne sont pas rattachés à Rome. Et là, il y a une tradition, mais je crois qu'elle n'est pas sacramentelle, pour les coptes par exemple. Et le patriarcat d'Alexandrie vient de réinstaurer la possibilité d'ordonner les diaconesses. Alors c'est assez amusant parce que le pape a fait cette commission en août 2016. Alors certains orthodoxes ont dit, bah, tiens, on va mettre ça à notre ordre du jour aussi pour le prochain synode. Et là, en un synode, ils ont réglé l'affaire, c'est bon. Donc pas de commission longue et ordonnée. Difficile. Ops. Mais ordonner, alors qu'est-ce que ça veut dire ordonner ? Je ne pense pas qu'il y a ici une ordination sacramentelle.
Comment est-ce que vous expliquez que le patriarcat d'Alexandrie règle ça aussi facilement alors que l'Église catholique ne décide rien et doit passer des années à
discuter ? Eh bien, il y a au moins deux ou trois raisons. Hein. C'est que, un, les orthodoxes, ils ont une tradition qui ne s'est pas éteinte tout à fait. Hein. Donc, il y a eu beaucoup plus de continuité, interruption, reprise, bon, premièrement. Deuxièmement, oui, il est très clair que ce n'est pas un sacrement, c'est une institution. Or, ici, les catholiques discutent de la question sacramentelle. Hein. Et troisièmement, ben, il faut dire aussi que le patriarcat d'Alexandrie, c'est quand même assez petit par rapport à l'Église catholique, quoi. Hein. Donc, ils sont autocéphales, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de compte à rendre à d'autres. L'Église catholique, si elle ne veut pas se scinder, etc., et créer de schisme, elle doit y réfléchir à deux fois avant de lancer une initiative pareille. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Hein. Mais enfin, je ne donne pas entièrement tort à l'Église catholique d'avancer plus prudemment, parce que... Alors, vous savez que, par exemple, l'Église syriaque a ordonné 22 diaconesses à Liège, hein, très récemment. Mais alors là aussi, hein, visiblement, ce ne sont pas des ordinations sacramentelles. Quand on voit ce qu'on leur demande, bien, c'est de travailler à la liturgie pour la lecture et pour les chants. Mais comme ça se fait dans une langue syriaque compliquée, c'est vraiment un travail difficile. Ils doivent apprendre la langue, chanter selon, etc. Donc voilà, et l'évêque de Liège a, non pas participé, hein, mais il a été présent. Et donc, voilà, ça c'est un type de diaconat. Hein. Est-ce que c'est celui-là que l'Église catholique veut? Eh bien là, je reprends le diagramme que j'ai fait dans la colonne de droite. Là, j'ai mis « femme ». Qu'est-ce qui est possible pour les femmes par rapport à ce schéma? Eh bien, des ministères institués, ce serait possible, car Casper, par exemple, est partisan de cette solution, hein, d'un ministère institué, comme le lectorat, l'acolytat et d'autres choses qui pourraient venir. Diacre transitoire, non, puisque ça veut dire qu'elle deviendrait prêtre. Vous voyez le schéma? Bon. Alors, diacre permanent marié ou célibataire, point d'interrogation, c'est de ça qu'on discute. Hein, c'est la colonne de droite de ce schéma. Et en tout cas, prêtre, non, ça c'est définitif. Hein. Voilà. Donc ici, on voit bien ce qui est possible. Les ministères, ben, certains grands théologiens sont tout à fait d'accord, mais ce serait sans doute beaucoup plus facile. La question du diaconat vraiment sacramentel reste une grosse question. Alors je veux quand même terminer la question de l'anglicanisme. Ben, dans l'anglicanisme, vous savez qu'il y a des femmes qui sont ordonnées, etc. Mais ça a fait une scission à l'intérieur de la communion anglicane. Hein. Donc il y a quand même 60 millions d'anglicans. Et il y a un demi-million d'anglicans qui ont dit, ben, dans ce cas-là, on fait sécession. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que Benoît XVI, d'une certaine manière, a proposé à ces anglicans de venir dans l'Église catholique. Anglicanorum Chetibus en 2009, c'était dire aux anglicans, ben, revenez dans le giron de l'Église. À ma connaissance, il n'y en a pas. Il y a des anglicans individuels qui passent à l'Église catholique, ça c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les ordinations féminines. Mais la proposition de Benoît XVI, c'était que tout un diocèse passe, hein, avec évêque, armes et bagages, hein, bon, et alors il devrait être réordonné, etc. Mais enfin, c'était une proposition assez audacieuse dans ce sens-là, mais il me semble que ça n'a pas été vraiment suivi. Alors, du côté protestant, là vous savez qu'il y a des ordinations féminines depuis longtemps, là, on note la première pasteur luthérienne en 1873 en Allemagne, à la suite de la guerre de 1870. Alors, et ça s'est passé souvent. Donc, des veuves de pasteurs qui ont repris le ministère de leur mari. Pasteurs qui étaient tués à la guerre, ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà. En 1873, en 1929 en France, les églises d'Alsace, là, sont beaucoup plus avancées aussi que le reste que l'intérieur de la France, comme on dit en Alsace. Hein. Les Français de l'intérieur sont plus lents, mais nous, les Alsaciens et les Lorrains, on avance plus. Ça a été approuvé en 1961, et actuellement en France, en l'an 2000, la proportion de femmes parmi l'ensemble des pasteurs est de 23%. 23% des pasteurs sont des femmes, pour les quatre grandes églises protestantes de France. Les facultés de théologie protestante comprennent de 40 à 45 étudiantes. Moi, la moitié des étudiants sont répartis hommes et femmes. Mais il n'y a pas de femmes admises parmi les pentecôtistes. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que les pentecôtistes, d'habitude, ce sont les églises libres, ce sont les églises qui ne veulent pas de hiérarchie, etc., et qui sont, bon, eh bien, eux sont, à ce niveau-là, plus traditionnels, alors qu'ils sont très avancés sur d'autres points. Alors, des femmes évêques. Chez les protestants, il y en a une série. dans l'église méthodiste, il y a eu 6 nominations entre 1980 et 2010, femmes évêques. Chez les anglicans, 9 entre 89 et 2012. Luthériens évangéliques, 14. D'autres confessions, etc. Au total, selon Wikipédia, en 2012, il y avait 32 femmes évêques chez les protestants. Voilà. Tâche féminine possible. Alors, le temps est passé. Si vous permettez, je continue encore 5 minutes. D'accord. Alors, une énigme. Comment est-ce que ça va? Une énigme canonique, c'est ça? Alors, là aussi, on a le droit canon qui nous dit ceci. Il y a le clergé et il y a le laïcat. Le clergé, c'est donc ceux qui ont reçu l'ordination à un niveau quelconque, mais sacramentel, bien sûr. Donc actuellement, ben, les diacres, les prêtres, les évêques, ça c'est le clergé. Le laïcat, c'est le peuple de Dieu. Et bien donc, un laïc ne peut pas commander à un clerc. Donc si dans un organigramme quelconque, hein, à un niveau canonique, il y a un laïc qui a sous son autorité un clerc, ça ne marche pas. Il faut trouver un truc, même si ça finira par être plus ou moins ça, mais il faut trouver un truc. Et alors le truc, c'est que d'habitude, ben, on forme une communauté de prêtres, et là, on nomme un prêtre chef de tous ces prêtres, et le groupe ben, obéit plus ou moins au groupe laïque. Hein, les manuels, ils ont eu des problèmes avec cette question-là. Et donc, un clerc ne peut pas être commandé par un laïc, mais bien sûr, le clerc peut commander au laïc. Hein. Ça, c'est ça, la définition. Ça, c'est la définition. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Hein. Alors, une religieuse, est-elle claire ou laïque?
Ça, c'est laïque.
Eh bien, oui, elle est laïque. Hein. Une religieuse est laïque. Alors, puisque les religieuses sont des laïcs, si par exemple, eh bien, dans une congrégation, il y a une sœur qui devient diaconesse, ah ben, elle ne peut plus être commandée par sa supérieure. Parce que c'est une laïque. Sauf si la supérieure est diaconesse. Mais si la supérieure n'est pas diaconesse, la religieuse, elle ne peut pas être commandée par une laïque. Hein. Donc là, canoniquement, il faut revoir le droit, il faut, etc.
Les religieux qui ne deviennent pas prêtres, ils sont considérés comme des laïcs ou comme des clercs?
Comme des laïcs. Ce qui fait la définition du clergé, c'est l'ordination sacramentelle. Hein. Pas sacerdotale nécessairement, mais sacramentelle. Donc un diacre fait partie du clergé, mais pas un religieux, même s'il est le frère général des frères des écoles chrétiennes avec 10 000 frères ou je ne sais pas combien, enfin autrefois il y en avait certainement autant. Oui.
Plus un laïc ne peut commander un prêtre, mais est-ce dans toutes les disciplines
au niveau canonique, au niveau d'une communauté canoniquement érigée.
Ce qui m'étonne, c'est qu'on pourrait comprendre au niveau dogmatique, au niveau... Mais ici, dans une vie religieuse où il y a un ordre interne, un laïc ne pourrait avoir une autorité.
Alors, par exemple, dans une faculté de théologie, hein, si comme ça se passe à Louvain-la-Neuve, si le doyen est un laïc, c'est le cas actuellement, il y a des professeurs qui sont des prêtres qui sont sous ses ordres, mais là, ce n'est pas problème, parce que ce n'est pas érigé canoniquement. L'université n'est pas un institut de vie religieuse, n'est pas une chose érigée canoniquement. Hein. Ce sont d'autres lois qui interviennent, et dans ce cadre-là, bon, ben, évidemment, on peut être commandé par un laïc. Mais je dirais, la question des formes internes, etc., enfin, toutes ces questions-là, eh bien, dépend de cette loi. Et donc, voilà, la question, eh bien, si une religieuse devient diaconesse, il faut que toute la congrégation devienne, ou au moins, en tout cas, sa supérieure. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, que peuvent faire, que pourraient faire des femmes diacres? Eh bien, je pense pas nécessairement autre chose, totalement différent, mais le faire d'une manière différente. Mais là, je crois que ça, c'est important, et que cette symbolique homme-femme est plus à respecter dans ce sens-là que dans le sens de dire hein, les uns font ceci et pas cela, et les autres font cela et pas ceci. C'est une manière de faire. si des femmes deviennent diaconesses, évidemment, la structure clergé laïque va changer, puisque actuellement, tout le clergé, ce sont des hommes, et toutes les femmes sont dans le laïcat. Bon, évidemment, ça va changer. Alors, jugement canonique. Est-ce qu'une femme peut être juge dans une rote, etc. Actuellement, elles peuvent être donc dans la justice ecclésiastique. Oui, elles peuvent être avocates, elles peuvent être juges, etc. Mais pas juge unique, jusque maintenant. Pas juge principal, parce qu'il faut un clerc, justement. Un clerc pour être ce juge définitif. Alors, je vous raconte une petite histoire. Ma sœur est juriste. Et mon beau-frère aussi. Et un jour, mon beau-frère vient en disant « Oui, il y a eu un cas, c'était vraiment scandaleux. Hein. Il y a un homme qui était qui a été accusé pour des trucs sexuels et tout. Et les trois juges, c'était trois femmes. Et l'ont condamné, mais vraiment, c'était injuste. C'était parce que c'était des femmes qui a été condamnées aussi fort. » Alors ma sœur lui a dit « Ah bon, ça, tu crois, oui, bon. Mais est-ce que tu sais que pendant des siècles, toutes les femmes ont été jugées par trois hommes. Hein. Et rien que par trois hommes. Et donc la situation inverse ne te semble pas curieuse, quoi. Ah ben tiens, c'est vrai, au fond, j'avais pas réfléchi à ça. Mais vous voyez, donc, moi je pense que ça changerait aussi des choses hein, au niveau canonique. En théologie, surtout en morale, la morale de la famille, les questions d'avortement, les apostolats auprès de la prostitution et tout ça, les soins du corps, les soins de l'âme. Et je pense aussi que s'il y a davantage de femmes dans le clergé, il y aurait une prévention assez naturelle, enfin, des abus sexuels. Parce que, évidemment, on se confierait davantage à des personnes qui sont proches, hein, et qui ont une certaine autorité morale, mais aussi juridique, en tout cas au niveau canonique. Et je pense que voilà, ce sont des choses que le diaconat féminin pourrait nous apporter. Je vous remercie.